de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, toujours avec moi, TV Shakila, et je vais vous présenter le journal. On commence par le titre. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou abrégée en BNPB, faible risque de catastrophe pour un candidat de la nouvelle capitale à Kalimantan de l'Est. Le président Joko Widodo inaugurera Palaparing Papua le 5 septembre 2019. L'Indonésie et le Chili renforcent leur coopération dans le domaine de la pêche et de l'environnement. Le potentiel de la nouvelle capitale pour peupler le tourisme insulaire, selon un observateur. Réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20. Chers auditeurs, voici les journaux complets. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou abrégée en BNPB, a expliqué que l'emplacement de la nouvelle capitale située entre Balikpapan et Samarinda, dans la province de Kalimantan de l'Est, est relativement verte ou indique une sécurité. Wisnu Wijaya, l'autre fonctionnaire de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou abrégée en BNPB, lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta, a déclaré récemment que dans l'enscape, Kalimantan oriental était classé comme sûr, mais il y a encore un risque qui doit être détaillé. Il a ajouté que la principale menace des catastrophes à Kalimantan de l'Est était les catastrophes hydrométéorologiques telles que les inondations. En fait, le problème principal est l'hydrométéorologie, le problème des inondations. Hydrométéorologie, point culminant, et à propos de la pluie, c'est un défi pour l'avenir. En ce qui concerne le tsunami, j'ai dit qu'il était faible à modéré et qu'il pouvait être géré. Wisnu a expliqué le potentiel d'inondation vu sur la carte du risque des catastrophes INARIS BNPB, s'est produit à l'embouchure de la rivière près de la côte. À l'avenir, selon lui, dans le développement, une planification spatiale basée sur des études des risques des catastrophes doit être faite afin d'éviter les inondations s'étendant à plusieurs régions. Le potentiel et la menace des catastrophes hydrométéorologiques se développeront quand il y a des problèmes environnementaux. Selon Wisnu, l'environnement endommagé élargira la distribution des zones touchées par les inondations. Le président indonésien Joko Widodo inaugurera le programme de Palaparing Papua le 5 septembre 2019 à Asmat, dans la région de Bovendigul, en Papouasie. Isaac Sawaki, le chef du bureau des communications et de l'information de Jaya Wijaya, a déclaré récemment à Wamena, après l'inauguration, Palaparing Papua pourrait être utilisé. Isaac Sawaki a déclaré que les partenaires chargés de la construction de la tour de Palaparing le soumettraient à chaque gouvernement régional après l'achèvement des travaux. Le Bureau de la communication et de l'information de Jaya Wijaya a demandé au ministère de la communication et de la technologie de l'information de fournir 1 giga de Palaparing pour répondre aux besoins de Jaya Wijaya. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de la Coordination des Affaires maritimes, s'est engagé à renforcer la coopération dans le domaine des affaires maritimes et de la pêche et régler les problèmes environnementaux avec le gouvernement chilien. Monsieur Safri Burhanuddin, le haut fonctionnaire du ministre coordinateur maritime, a déclaré vendredi que le renforcement de la coopération était le suivi de la réunion de l'APEC et de la 25e COP de cette année. La coopération en matière d'atténuation des catastrophes qui sera menée avec le gouvernement chilien a pour objectif de réduire les risques des catastrophes causées par les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunamis. Concernant les questions environnementales, les deux pays ont le même point de vue sur les déchets marins. L'ambassadeur du Chili en République d'Indonésie, Gustavo Ayares Osandon, a déclaré que la coopération avec l'Indonésie était importante parce que les deux pays étaient également préoccupés par les questions environnementales, en particulier le problème des déchets plastiques qui était devenu un problème mondial, ainsi que la coopération dans le domaine de l'atténuation des catastrophes et de la pêche. L'observateur du tourisme de l'Université Générale Sudirman, ou abrégé en UNSUD, Chusmeru, a déclaré récemment à Purwokerto, dans le centre de Java, que la province de Kalimantan de l'Est disposait d'un potentiel touristique considérable si elle devenait une nouvelle capitale, entre autres le tourisme insulaire. Kalimantan orientale a des îles intéressantes pour les touristes à visiter. Outre les célèbres îles d'Arawan, Kalimantan orientale possède des îles intéressantes à visiter, telles que l'île de Maratua, l'île de Biduk-Biduk, l'île de Panjang, l'île de Sanggalaki, l'île de Samama et l'île de Kakaban. En outre, le tourisme de nature, tel que la plage, la rivière, le tourisme culturel et historique dans cette région devrait également connaître un bon développement. La réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 se tiendra à Matsuyama, le Japon, le 1er et 2 septembre 2019, encourage la formation future d'un travail centré sur l'homme. Le ministre du Travail, Hanif Dakiri, a déclaré à Jakarta que la réunion du ministre du Travail aboutirait à la déclaration du ministre du Travail du G20. À cette occasion, Hanif présentera des questions liées au programme et aux politiques gouvernementales pour faire face aux changements démographiques, en particulier les bonus démographiques. Hanif fera une présentation de la session thématique de consacrée à l'emploi des jeunes. La réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 discutera les solutions aux problèmes de l'emploi rencontrés dans leurs pays respectifs avant qu'il y ait un échange d'informations entre les pays et puisse avoir un impact sur la croissance économique mondiale. Voilà les journaux d'aujourd'hui.
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami, angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Bonsoir à tous. La mise au point de la semaine d'aujourd'hui, intitulée « Le déménagement de la capitale au plus tard en 2024 ». Le casse-tête sur l'emplacement de la nouvelle capitale de la République d'Indonésie, on l'a déjà répondu. Le président Joko Widodo, au palais de l'État de Jakarta, a annoncé lundi dernier l'emplacement d'une nouvelle capitale à Kalimantan de l'Est, plus précisément dans deux districts, à savoir Kutai Kartanegara et Penajam Pasir Utara. À cette occasion, le président était accompagné du vice-président Yusuf Kalla, de plusieurs ministres, du gouverneur de Kalimantan de l'Est, Isra Nur, et du gouverneur de DKI Jakarta, Anies Baswedan. Le président Jokowi a déclaré que la raison pour laquelle on déménagera la capitale, parce que le fardeau de Jakarta en tant que centre du gouvernement est des entreprises très lourdes, comme les embouteillages, la pollution et les inondations. Tandis que les régions du Penajam Pasir du Nord et de Kutai Kartanegara présentent un risque minime de catastrophes, comme des inondations, des tremblements de terre, des tsunamis, des incendies de forêt, des volcans ou bien des glissements de terrain. De plus, l'emplacement est stratégique car il se trouve au centre de l'Indonésie. La région est également proche de villes en développement, Balikpapan et Samarinda. La superficie totale de terre qu'on a préparée est de 180 000 hectares. Le gouverneur de Kalimantan de l'Est, Isra Nur, s'est félicité de la décision du président. L'impact positif n'est pas seulement pour l'intérêt du Kalimantan de l'Est, mais également pour toutes les provinces du Kalimantan. En plus du Kalimantan, Isran pense également que l'impact positif peut être bénéfique pour l'Est de l'Indonésie. Tandis que le gouverneur de DKI Jakarta, Anies Baswedan, a souligné que le déplacement de la capitale à Kalimantan de l'Est n'aurait pas d'effet négatif sur l'économie de Jakarta, car Jakarta sera toujours le centre de l'économie indonésienne. Il espère qu'à l'avenir, on pourra convertir le terrain de l'ancien espace de bureau à des fonds commerciaux et publics, c'est-à-dire que certains sont des zones commerciales et d'autres des espaces verts. Le ministre de la Planification du Développement National, Bambang Brojonegoro, a déclaré que le déménagement de la capitale à Kalimantan de l'Est au plus tard en 2024. Chers auditeurs, voilà la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er septembre. Nous commençons par le 1er septembre 1923, le tremblement de terre à Kanto, au Japon. Samedi le 1er septembre 1923, le tremblement de terre de Kanto frappait la plaine de Kanto, sur l'île principale de Honshu, au Japon. Divers rapports indiquent que la durée du séisme a été comprise entre 4 et 10 minutes. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 est situé bien en dessous de l'île d'Izu Oshima, dans la baie de Sagami. Plus de 105 000 personnes ont perdu la vie et plus de 109 000 personnes ont été évacuées. Ce séisme a détruit 109 000 bâtiments. La suite, le 1er septembre 1961, la première conférence du mouvement des non-alignés. Le mouvement des pays non-alignés est une organisation internationale composée de plus de 100 pays qui se considèrent comme non-alignés avec une grande puissance. Comme indiqué dans la déclaration de la Havane de 1979, cette organisation a pour objectif de garantir l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés pour la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le racisme et toutes les autres formes d'agression militaire, l'occupation, la domination, l'ingérence ou l'hégémonie et contre toutes les formes de bloc politique. Le mouvement des pays non alignés a débuté par le sommet d'Asie d'Afrique, une conférence tenue à Bandung, Indonésie, en 1955. Des pays qui n'étaient pas favorables à un bloc particulier ont déclaré leur volonté de ne pas participer à la confrontation de l'idéologie occidentale ou orientale. Les fondateurs de ce mouvement sont 5 dirigeants mondiaux, Josip Broz Tito, président de la Yougoslavie, Sukarno, président de l'Indonésie, Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, Pandit Jawaharlal Nehru, premier ministre indien, et Kwame Nkrumah du Ghana. Le mouvement des pays non alignés a tenu son premier sommet à Belgrade, en Yougoslavie, du 1er au 6 septembre 1961. Lors de cette première conférence, le mouvement des pays non alignés est officiellement formé. Le 1er septembre 1963, l'Institut de l'agriculture de Bogor a été fondé. L'Institut agricole de Bogor est un établissement d'enseignement supérieur agricole qui a historiquement été formé par des établissements d'agriculture et de médecine vétérinaire secondaire et supérieure qui existaient au début du XXe siècle à Bogor. Avant la Seconde Guerre mondiale, ces établissements d'enseignement secondaire étaient connus sous le nom de Middelbare Landbouw School, Middelbare Bosbouw School et Nederlands Indisch Werksen School. Le 1er septembre 1963, le premier président de l'Indonésie, Insinyur Sukarno, a posé de la première pierre de la construction du campus et inauguré l'Institut d'agriculture de Bogor en tant que collègue indépendant. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Suaraku tak secakap Almeria menyimpan. Kalungmu
Voici mon Indonésie, dont le titre est le championnat ouvert de squash de Jakarta augmente les amateurs de squash. La présidente de l'Association indonésienne de squash de DKI Jakarta, Amalia Krishna Damayanti, a déclaré que la mise en place du championnat ouvert de squash de Jakarta 2019 pourrait susciter l'intérêt du public pour les sports de squash. Elle a dit au bâtiment de squash de Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, jeudi dernier. Selon elle, la mise en œuvre du championnat ouvert de squash de Jakarta 2019 a été un succès car elle comptait de nombreux participants issus non seulement du pays, mais également d'autres pays comme la Malaisie, l'Inde et le Singapour. En outre, elle a révélé que pour l'organisation du prochain championnat ouvert de squash de Jakarta 2020, son parti effectuera divers préparatifs de manière plus approfondie, de sorte que les participants seront également plus nombreux. D'autre part, elle a révélé que jusqu'à présent, son équipe continuait de guider tous les athlètes, y compris les athlètes juniors, afin d'améliorer leur performance au niveau national et international. Au championnat ouvert de squash de Jakarta 2018, qui se sont déroulés du 26 au 29 août au bâtiment de squash de Gelora Bung Karno à Senayan, Jakarta, l'équipe provinciale de Jakarta a remporté le championnat du classement général avec 6 médailles d'or, 3 d'argent et 4 de bronze. Outre un total de 13 médailles, l'équipe de la capitale a également remporté un prix de 12 millions de roupias. La deuxième position a été remportée par Jaffa de l'Ouest avec 3 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze et 8 millions de roupias. La troisième place a été remportée par Jaffa Central avec 4 médailles d'argent et 4 médailles de bronze et 4 millions de roupias. Madame Amalia Krishna Damayanti a déclaré être fière de cette acquisition car auparavant, lors du championnat ouvert de squash du gouverneur de Jaffa de l'Ouest 2019, il y a quelque temps, le DKI Jakarta n'avait remporté que 3 médailles d'or. D'autre part, l'Association indonésienne de squash de DKI Jakarta et le gouvernement local achèvent actuellement la construction d'un nouveau terrain de squash situé au bâtiment sportif de Koja, Jakarta du Nord. Elle a révélé que le champ en construction aurait une superficie d'environ 250 mètres carrés qui deviendrait 3 champs de squash. Ahmad Firdaus, directeur de l'Agence de la jeunesse et du sport de Jakarta, a également déclaré que l'engagement du gouvernement local de construire un terrain de squash standard international au bâtiment sportif de Koja. Il a ajouté que la construction du site de squash du bâtiment sportif de Koja coûterait 400 millions de roupias et serait achevé au cours des 2 prochains mois. C'est tout mon Indonésie. Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous sur l'onde courte de 3,3-5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. Et voici mon Indonésie.
Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang jangan. Oh.
bilang kamu berubah.
Dulu kurus sekarang gajah.
Aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa?
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 Banyak
keraguan dalam hatimu. Oh kasih, dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamulah satu-satunya.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la deuxième chanson de pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, cette fois-ci, je vais vous présenter Jaran Bodak, la traditionnelle de Java de l'Est, Probolinggo. Jaran Bodak est l'un des arts traditionnels de Probolinggo, Java de l'Est, qui a été inscrit en 2014 sur la liste du patrimoine culturel immatériel indonésien de 2014. Jusqu'à présent, le Jaran Bodak reste populaire parmi les habitants de Probolinggo et d'habitude on l'utilise pour accompagner et défiler des célébrations, des mariages et des circoncisions. Chers auditeurs, en japonais ou en madura, Jaran signifie cheval et Bodak signifie un contenant ou une autre forme. C'est-à-dire, Jaran Bodak est un cheval artificiel en bois ou en rotin qui ressemble à la tête jusqu'au cou d'un cheval. Ensuite, divers accessoires se sont joints au cou du cheval de bois. L'art de Jaran Bodak se déroule généralement sous la forme d'une procession dans la rue ou devant la maison, accompagnée de la musique traditionnelle de gamelan, composée de kenong, gong, tambour et seronen. Chers auditeurs, dans la procession des Jaran Bodak, il y a deux personnes qui portent Jaran Bodak et deux janisses ou danseurs qui accompagnent Jaran Bodak. Les joueurs de Jaran Bodak utilisent des vêtements étincelants, uniques et attrayants, conçus par leurs propriétaires dont le but est d'attirer l'attention du public. N'importe qui peut danser Jaran Bodak parce que les mouvements sont faciles et vous pouvez suivre le rythme de la musique traditionnelle qui consiste en kenong, telo et seronen. Historiquement, l'art de Jaran Bodak est indissociable de l'art de Jaran Kencak, précurseur de Jaran Bodak. Certains disent que Jaran Kencak était apparu au début de l'indépendance de l'Indonésie. Jaran Kencak signifie cheval dansant. C'est un spectacle qui utilise des chevaux spécialement entraînés à la danse et à l'habillement complet. Tandis que les personnes moins fortunées ont aussi soif de divertissement, comme l'art de Jaran Kencak. À cause de leur pauvreté, ils sont incapables de posséder ou de louer des chevaux, alors on a fait un simulacre de cheval en bois ressemblant à une tête jusqu'à cou de cheval. Ensuite, un équipement ou des accessoires similaires au Jaran Kencak original rejoignent le cou du cheval en bois. L'art Jaran Bodak existe toujours dans tous les quartiers de la ville de Probolinggo. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine Cultura. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Dans cette édition, je vais parler d'informations sur l'Indonésie qui participera aux plus grandes expositions d'artisanat et de dessins d'intérieur d'Europe. Chers auditeurs, l'Agence de l'économie créative, ou en indonésien, Badan Ekonomi Kreatif, abrégé en BEKRAF, invite les créateurs de meubles indonésiens à participer à l'exposition du meuble Maisons et objets à Paris en France. C'est la première fois que l'Indonésie participe à cet événement. Dans cette activité, l'équipe indonésienne a été bien soutenue par BEKRAF, l'Association indonésienne des dessinés d'intérieur, ou en indonésien, Himpunan Desainer Interior Indonesia, ou abrégé en HDDI, et l'ambassade d'Indonésie en France à Andorre et à Monaco. Maisons et objets se tiendra du 6 au 10 septembre 2019 au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, Paris, France. Maisons et objets est la plus grande exposition dédiée aux professionnels du dessin d'intérieur et d'artisanat qui se concentre sur des produits destinés à la maison tels que meubles, accessoires pour la maison, etc. L'Indonésie a présenté à cette exposition 24 marques locales et leurs produits de qualité supérieure sous la marque d'identité. Comme une exposition prestigieuse, je sois en tant que responsable de commercialisation de BEKRAF a révélé que Maisons et objets est très strict pour la sélection des produits à exposer. BEKRAF et HDII, pendant environ un an, effectuaient le processus de sélection conformément aux normes de Maisons et objets. Le pavillon indonésien à la Maisons et objets a un thème « La vie tropicale ». Le chef adjoint de BEKRAF, Ricky Joseph Pesik, a déclaré que son parti continuait de développer l'industrie de l'artisanat et de la décoration d'intérieur, notamment en faisant participer des acteurs créatifs à l'exposition internationale. Tandis que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie pour la France, Andorre et Monaco, et aussi l'UNESCO, Armanata Kristiawanasir, a déclaré que la diplomatie économique était l'une des priorités de la diplomatie indonésienne. Pour cela, l'ambassade d'Indonésie est constamment à la recherche d'opportunités pour élargir l'accès au marché des produits d'exportation indonésiens, dont l'un est le produit de l'économie créative. C'était l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le sujet est l'Indonésie participera aux plus grandes expositions d'artisanat et de dessins d'intérieur d'Europe.
Kau mati, aku takkan pernah mengerti. berarti mengapa tak bisa ku buat yang bersenang hati. Yeah.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Aku berlari mencoba memperbaiki segala kemurungan hatimu, bahwa kau selalu sendu. Aku takkan pernah tahu,
takkan pernah
jika kamu tak akan mau memberiku cara untuk menenteramkan hati. Yeah.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih.
Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang
dan tersenyum lagi.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih.
Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Tersenyum lagi, tersenyum lagi, buat dia tersenyum lagi. Tersenyum lagi.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sous la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Et cette fois-ci, on va aussi saluer nos amis du monde. Bonsoir chers amis, voici une édition courrier et musique de Voice of Indonesia. Toute l'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Virza. À la fin du mois d'août 2019, Virza est revenue à l'écriture d'une chanson et a publié son dernier single. Une nouvelle étape et de nouveaux défis seront à nouveau passés par Virza, qui lancera prochainement un troisième album. Son dernier single intitulé Nyaman, ou en français Confortable, est le premier single du troisième album. Dans la chanson Confortable, Virza a écrit ses propres paroles et a collaboré avec Ikai en tant que producteur de musique. Bon, chers amis, maintenant je vais dire bonjour à Jean Barba, de 168 Avenue du Stade, 63110 Beaumont, France, et à Gauthier J.E., Radio Club du Perche, 12 rue François Morio, 28110 Luc, La France, Jacques Augustin, 10 rue Ousséné, 93110 Rosny-sous-Bois, La France, à Franjac, en rue des Églantiers 89-430, oui. Jean-Michel Aubier, de 13 route de Brissé, en 83-40 Alsace, la France. Comment allez-vous, chers amis? J'espère que vous allez bien et que tout s'est déroulé comme prévu. Merci, chers auditeurs, d'écouter Voice of Indonesia. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Bon, c'est tout l'édition de Courrier et Musique d'aujourd'hui. Pour la clôture, une chanson que vous allez écouter, la chanson intitulée « Nyaman » ou en français « Confortable » chantée par Firza. Bonne écoute!
Kemarin sempat aku berbuat salah, tapi itu hanyalah kilaf yang terlupakan oleh sang waktu. Tak ada yang rela untuk menyakiti hati yang dicintai karena maksud yang buruk hingga ku melukaimu. Dirimu adalah nafasku yang selalu bisa membuat nyaman hati ini, dan kamu penyelamat hidupku dari semua luka. Kau penyelajut ketiku. Dan tak ada niat untuk mendustai hati yang dicintai karena maksud yang buruk hingga ku melukaimu. Membuat nyaman hati ini, dan kamu penyelamat hidupku dari semua luka dunia. Hanya kau penyelamat hatiku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terang biasa redup dan kusam. Oh ini pertanda kesedihan atau kebahagiaan? Sedikit merasa dilema di sudutku sendiri, tak sepatah kata terucap menanti dulunya hati. Dan aku pergi ke hadapanmu, ku ucapkan kata pisahku. Dan aku pun berharap semoga semua jadi kamu. Ku coba untuk tegarkan diri melawan rasa di hati. Dan aku pergi ke hadapanmu, ucapkan kata pisahku.
Voice of Indonesia.
Maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus, aku kan mencoba jadi seperti yang kau minta. Musik.
Indonesia.
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil nama.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Au revoir.